Vous êtes sur RTL. Pro sur RTL.
Évidemment, vous le savez, Alisha, 14 ans, battue, jetée dans la Seine, retrouvée morte, noyée. Un garçon et une fille âgées de 15 ans ont été interpellés. Et il y avait une affaire de harcèlement quelques jours avant sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi on en parle à l'heure du déjeuner. Nous sommes avec Pierre, qui est professeur d'histoire. Qu'est-ce qu'il faut faire, Pierre ?
Ah ben, si j'avais la solution, ça serait simple. Alors, il y a deux problèmes, je crois. Il y a un problème par rapport aux réseaux sociaux en tant que tels et à leur utilisation par les jeunes. Puis après, il y a le problème du harcèlement. Le problème du harcèlement, je crois que... Enfin, moi, c'est souvent le conseil que je donne aux élèves quand on en parle, parce qu'on essaie d'en parler pendant les heures d'éducation civique, d'éducation morale et civique, comme on dit aujourd'hui. C'est l'élément le plus important, c'est de trouver un interlocuteur. Alors, ça a l'air hyper facile à dire comme ça. C'est très compliqué parce que j'entendais dans votre reportage dans le journal tout à l'heure des personnes qui disaient qu'il faut aller voir le proviseur adjoint, etc. Mais c'est peut-être pas ces gens-là que l'élève va avoir envie d'aller voir. En fait, tout le problème pour lui est d'arriver à trouver quelqu'un, quelqu'une. Ça peut être dans son entourage familial, ça peut être dans ses profs, ça peut être dans le personnel administratif de l'établissement. Il faut trouver quelqu'un
à qui parler. Mais peut-être déposer plainte aussi. Pourquoi ne pas déposer plainte ?
Mais parce que avant de déposer plainte, Pascal, faut déjà oser en parler. Et en parler devant une autorité qui est une autorité policière, c'est pas forcément facile. Donc déjà avoir déjà débloquer, parce que finalement le harcèlement il marche parce qu'il y a un blocage au niveau de la parole qu'on s'interdit d'avoir. Donc c'est ce blocage au niveau de la parole qu'on s'interdit d'avoir. Donc il faut arriver à mettre dans la tête des jeunes que la loi leur demande de parler, que justement la loi est de leur côté, qu'ils vont pouvoir aller porter plainte derrière, etc. Mais il y a une pression qui est telle que c'est hyper, hyper compliqué.
Vous connaissez l'association e-enfance peut-être ?
Pas bien.
Elle est intéressante parce qu'elle s'occupe précisément de ces sujets-là et elle, sur son site, il est marqué que le cybersexisme touche 3 filles et 2 garçons par classe. 30% des adolescentes déclarent avoir subi des violences sexuelles hors ligne à l'école.
Ouais, mais c'est finalement pas étonnant avec la configuration des jeunes qu'on a aujourd'hui. Et surtout, alors après, quand on passe sur le côté harcèlement par le biais des réseaux sociaux, par l'utilisation des réseaux sociaux, en fait, que font les jeunes aujourd'hui. Parce que, en gros, je crois qu'il y a 3 types de problèmes, si on essaye d'être un peu synthétique et rapide. Le premier problème, c'est que, en gros, le réseau social, pour un jeune aujourd'hui, c'est quasiment sa seule et unique source d'information. C'est-à-dire qu'il va pas aller chercher quelque chose ailleurs.
Il va uniquement aller là-dessus. Là, vous me faites peur. S'il ne lit pas un journal, s'il n'écoute pas une radio, s'il n'écoute pas une télévision, vous me faites peur.
Eh bien, c'est la réalité pour la plus grande majorité des élèves. On a un thème qu'on enseigne dans la spécialité géopolitique, sciences politiques maintenant qu'on fait en première, qui est sur les médias. Et on commence en fait par faire un sondage. On demande aux élèves, enfin moi c'est ce que j'ai fait l'année dernière, je leur ai demandé comment leurs grands-parents s'informer, comment leurs parents s'informer, comment eux s'informaient. Et on leur propose plein de types de médias. Et bien, je vous assure qu'à 80%, Pascal, 80% des jeunes de 16 ans aujourd'hui s'informent quasi uniquement sur les réseaux sociaux. Quasi uniquement.
Donc, pas de journaux à la radio,
je le répète.
Allô.
Donc, oui, je vous entends.
Donc, pas de journaux
la radio,
à la radio,
très peu, les journaux, non.
Pas de journal de 20h, bien sûr,
ouais.
Et on n'achète pas un journal de province ou un journal de région ou un journal national.
Alors, pour les faire aller vers les médias, moi, je sais que je leur demande de faire toutes les semaines à un élève à tour de rôle une actualité de la semaine, quoi, en fait, qui va les obliger à essayer de s'intéresser à ça. Et puis après, 2 petits mots-clés, à mon avis, pour les réseaux sociaux. Il y a un autre problème, c'est que la question, c'est est-ce que c'est dangereux ? Ça dépend entre les mains de qui on les met. C'est-à-dire qu'on a des jeunes aujourd'hui qui ne savent pas ce que le mot « interdiction » veut dire. L'éducation est bienveillante, les parents sont bienveillants, et ils ne savent plus ce que c'est.
On peut être bienveillant et interdire, hein, et parfois même interdire, c'est de la bienveillance.
Il y a un problème d'autorité aujourd'hui. Il y a un problème d'autorité, et à l'intérieur même de l'éducation nationale, il y a un problème d'autorité. Et ça, c'est un problème, parce que si on ne sait pas ce qu'on peut faire ou ne pas faire, c'est quand même un problème. Et puis le deuxième élément sur les réseaux sociaux qui me semble être problématique, c'est le fait qu'aujourd'hui les jeunes, mais alors pas que, parce qu'il suffit d'écouter dans le train les gens qui parlent à leur portable et puis on a tout de suite une illustration, on ne fait plus la différence, on la fait de moins en moins, en ce qui relève du privé et ce qui relève du public. Que quelqu'un mette des photos sur un site, c'est privé et ça lui appartient. Alors, il devrait peut-être réfléchir avant de mettre des photos, bien sûr, hein. Mais le fait après d'utiliser ça et de diffuser et de le lancer dans le public, c'est une différence qu'ils ont du mal à faire.
Merci Pierre pour cette excellente synthèse et puis cette excellente description telle que vous la vivez sur le terrain. Je rappelle que vous êtes prof d'histoire et effectivement on a le sentiment que tout ce que vous avez dit est juste et c'est assez effrayant, disons-le. Je salue bien sûr Greg Caranoni.
Bonjour.
À 13h07, on va faire une première pause.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Laurent Tessier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Alisha, 14 ans, battue, jetée dans la Seine, a été retrouvée morte, noyée. Un garçon et une fille âgée de 15 ans ont été interpellés. La mère de la victime parle d'harcèlement scolaire. Comment lutter contre ce fléau qui touche près de 700 000 élèves? Hugo Martinez est le fondateur de l'association Hugo. Il a été victime d'harcèlement à l'école. Il était l'invité d'Yves Calvi ce matin sur RTL.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, le harcèlement en France, le harcèlement à l'école, est impuni. On tue des élèves sans qu'ils soient, en tout cas, leurs agresseurs punis.
Vous êtes parents, les réseaux sociaux vous inquiètent-ils? Surveillez-vous l'activité de vos enfants? Comment gérez-vous à la maison l'utilisation de Snapchat, TikTok, Instagram, Twitter ou encore Facebook? Hugo Martinez les pointe du doigt.
Ils font durer la torture permanente, de manière permanente, c'est-à-dire le soir, pendant les vacances, non-stop. Mais surtout, on ne le voit pas. Avant, ça se passait principalement, j'ai envie de dire, dans la cour de récréation, hein, au sens symbolique. Et donc, on voyait les bagarres, les bousculades, etc. Oui, oui. Avec le cyberharcèlement, on ne le voit pas. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup trop d'adultes qui se cachent derrière cela en disant, ben non, ça se passe plus dans l'école, ça se passe plus dans le collège, ça se passe plus dans le lycée, et on ne le voit pas. Ah ben non, il n'y a rien qui se passe.
Parents, vous sentez-vous impuissant, difficulté, professeur, chef d'établissement, avez-vous le sentiment que les ados sont déconnectés de la réalité? Eh bien, les parents sont les premiers responsables, écrit Sivodule sur la page Facebook de l'émission. Ils doivent surveiller ce que font leurs enfants sur les réseaux sociaux, lance Aurélie. C'est de la faute de l'enfant roi, lance encore François. Il ne faut pas punir, réprimander. On voit aujourd'hui le résultat. Et pour Thierry Pascal, la génération des 25-40 ans a tout eu, console, téléphone, internet. Ils transmettent à leurs enfants. Ils ont plus un rapport de copain-copine que de réelle hiérarchie. Il faut remettre tout le monde à sa place. Yves le répète, les chefs d'établissement ont un rôle important dans toutes ces histoires.
Et j'ai cité tout à l'heure l'association e-enfance qui prévient le cyberharcèlement et sur son site toujours, je lis ceci, le cyberharcèlement est le risque le plus important auquel un enfant est exposé sur Internet. Il est le devoir de tous de prévenir et combattre l'intimidation en ligne. Les premiers adultes à prodiguer aide et conseils en matière de sécurité sur Internet sont les parents, 60%, puis les enseignants, 43%, et enfin les pères, 26%, pères PAIRS. L'âge des premiers pas sur Internet est de plus en plus bas, 9 ans en moyenne. Charles est avec nous, bonjour. Vous êtes enseignant également.
Absolument.
Bah, écoutez, Qu'est-ce que vous constatez dans votre classe?
Eh ben, je constate de toute façon que c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. Je trouve aussi que les ados, les mineurs en tout sont de plus en plus sexualisés parce qu'il y a des défis sur des réseaux sociaux comme TikTok, etc. Et je pense que, alors déjà, moi, il me vient une première réflexion. Je pense qu'on devrait démonétiser, vous savez, les sites qui rétribuent les vidéos lorsque, à partir d'un certain nombre de vues, voyez, on devrait démonétiser ce système-là lorsqu'il s'agit de mineurs qui pensent pas qu'ils peuvent gagner de l'argent, par exemple, en se mettant en scène et en faisant quoi que ce soit.
Alors malheureusement, je suis pas tout à fait au courant de cela. Il y a des sites qui proposent de monétiser au nombre de vues.
Oui, bien sûr. Mmh. Mais c'est ce que font, c'est de cela que vivent les influenceurs sur YouTube et compagnie, hein. Voilà. Mmh. Et comme ces personnes-là sont devenues les nouvelles idoles, en fait, de ces.
Ah, mais là, c'est compliqué comme réglementation, parce qu'un influenceur, il est payé directement par le site, il n'est pas payé par les gens qui le regardent.
Tout à fait, mais bon, ça c'est, si vous voulez, c'est vraiment une réaction.
Il est payé par
ça,
des marques, j'imagine aussi.
Absolument, oui, tout à fait, parce qu'ils font des placements de marques, etc. Mm. Et vous voyez, et pas que, après c'est le nombre de vues sur les sites, etc., qui joue, mais moi ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est, j'ai envie de reprendre quelques idées que j'ai entendues là juste avant. Il est évident que les mineurs de maintenant ne sont plus les mêmes que ceux d'il y a 30 ans. On n'aurait jamais imaginé des vidéos de personnes qui se mettent en scène de façon héroïque érotiques, qui se dénudent un peu, qui font des poses lascives, etc. Et je pense que la responsabilité, elle est celle des parents. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a une génération de parents qui sont dans l'incapacité d'être parents, c'est-à-dire de mettre des limites, d'éduquer au sens noble, voilà, de communiquer avec eux, parce que alors je pense que certains ont la possibilité culturelle de le faire, d'autres peut-être un peu moins, mais je veux dire, les parents, en fait, ils ont baissé les bras, ils n'éduquent pas les enfants. Alors je généralise évidemment,
puisqu'on parle de ça. Oui, mais Charles, vous généralisez, et surtout, comment dire, on s'aperçoit que la cellule familiale classique a explosé, ce n'est pas nouveau. Dans certains milieux sociaux, il n'y a plus précisément de parents, souvent il n'y a que la mère. C'est ce qu'on hier, par exemple, oui, il y avait un témoignage qui allait dans ce sens d'une enseignante qui disait, dans ma classe, tous les élèves, elle disait, je crois que c'était 80 ou 90% des élèves, n'ont qu'une mère. Le père, il est aux abonnés absents.
Mais Pascal, c'est trop facile de jeter l'opprobre sur les familles monoparentales.
Mais non, mais loin de moi ça, au contraire. Je dis simplement qu'elles sont démunies parce que ces femmes travaillent beaucoup et elles sont démunies devant un, deux ou trois enfants à gérer.
Écoutez, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que les familles monoparentales, à partir du moment où vous avez un père ou une mère qui tient la route et qui veut bien éduquer ses enfants, qu'il en ait un ou trois, pour moi, ça ne change rien. Ce n'est pas parce qu'on est issu d'une famille monoparentale qu'on doit être.
Vous avez
raison. On doit trouver des excuses.
Vous avez raison, et ce n'était pas dans ce sens-là que je le disais.
Voilà, moi, le premier, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai été élevé par ma mère, je n'avais pas mon père, et je ne suis pas devenu délinquant. Voyez. Et en plus, ma mère, elle n'avait pas une culture phénoménale non plus, mais elle assume donner des valeurs.
Mais elle était plus présente, sans doute.
Elle assume me dire ce qui était bien, ce qui était mal, et elle a fait son rôle de parent. Maintenant, effectivement, les parents, beaucoup, sont des potes. Il y a des mots qui sont tout à fait tabous maintenant dans notre société. C'est interdit, limite, éducation, cadre, tout ça, c'est tabou. Et on le retrouve à tous les niveaux de la société. Alors, ça donne lieu à des dérives, alors quand ce n'est pas des agressions complètement gratuites, c'est des menaces des enseignants, c'est des... Bon, voilà. Et je trouve ça, quelque part, complètement déplacé de faire peser sur l'éducation nationale et les enseignants l'incapacité des parents à éduquer leurs propres enfants. Voilà. Parce que l'enseignant, son rôle principal, c'est de faire passer des connaissances. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas être des adjuvants et qu'on ne peut pas faire, à des moments, évidemment, de la sensibilisation, de la prévention et de l'éducation au sens large. Mais les enseignants ont déjà une mission monumentale parce qu'on assiste à un tel effondrement du niveau de connaissances basiques des élèves que notre tâche, elle est déjà énorme de ce point de vue-là. Alors, qu'on s'en remette aux enseignants sans arrêt pour pallier au manquement des parents, ça, je trouve ça scandaleux.
Ben merci Charles, vous avez raison, les enseignants sont là pour enseigner, ils ne sont pas là pour éduquer, bien évidemment.
Oui, on n'est pas des parents bis, et d'ailleurs, les parents, souvent, quand certains parents disent « Écoutez, moi, je ne sais plus quoi faire, allez-y, faites ce que vous voulez. » Voilà.
La pause, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Quel a été le rôle des réseaux sociaux dans la tragédie et la mort d'Alisha, 14 ans? C'est le sujet de notre discussion depuis 13 heures. Les premiers témoignages laissaient penser que la jeune Alisha subissait un harcèlement en ligne depuis déjà plusieurs semaines. Nous sommes avec Laurent, qui habite Lille. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous avez des enfants?
Oui, j'en ai eu trois, qui ont aujourd'hui 28, 26 et 22 ans.
Donc vous n'avez jamais été concerné, j'ai envie de dire, par les réseaux sociaux quand ils étaient...
Si, avec ma dernière, justement.
Et elle avait quel âge?
C'était... elle avait 18 ans, quelque chose comme ça. Et c'est ce que je disais, donc, à votre standardiste, le problème des réseaux sociaux aujourd'hui, moi, je les ai toujours empêchés d'aller sur Internet, sur des sites qui deviennent de plus en plus douteux. Alors, quand on parle de Facebook, c'est devenu abominable. Et quand on dit que les parents, c'est pas la faute des parents, si, c'est la faute des parents. On n'a pas le droit de laisser ses enfants, je veux dire, aller sur des sites comme Facebook, parce que, bon... ça dérive bien souvent. Et finalement, on va prendre l'exemple. Vous mettez, par exemple, une histoire de France, une histoire de Voltaire, une histoire de Gaulle ou quoi que ce soit. Vous allez récupérer 5 likes. Vous allez mettre un truc haineux sur Facebook. Vous allez récupérer 100, 200, 300 likes.
Laurent, je ne sais pas où vous êtes, mais un petit peu où devant, ou vous êtes à l'extérieur?
Devant, oui, à l'extérieur, oui. Ouais,
vous êtes où? Vous êtes à Lille?
Oui, c'est ça, oui.
Ah, ouais. Il y a du vent à Lille, mais ouais. Peggy Broche nous l'a annoncé, donc je ne suis pas étonné, il y a confirmation de la météo.
Oui, bah oui, tout à fait. Tout à
fait. Mettez-vous à l'abri, mettez-vous un peu à l'abri. Voilà. Donc la haine, vous dites, ça rapporte plus de likes que
oui,
de
largement.
Gentillesse ou de culture.
Mais largement, mais écoutez, attendez, vous savez qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les enfants qui ont aujourd'hui entre, je veux dire, entre 15 et 20 ans, pour la plupart, et pour certains, ne savent même pas qui était Voltaire, ne savent même pas qui était
ça,
De Gaulle.
Ça, je confirme, Voltaire. Alors, De Gaulle, peut-être, mais Voltaire, ça, j'en suis sûr. Ça, Voltaire.
Ça, mais c'est devenu, on est devenu un pays, je veux dire, un pays aujourd'hui où les réseaux sociaux, c'est fait pour quoi? C'est fait pour montrer sa plus belle cuisine, c'est fait pour montrer, je veux dire, voilà, on reste dans un, je veux dire, dans quelque chose d'abominable, c'est abominable. Ou alors vous allez insulter celui qui a fait un mauvais commentaire. Et c'est ça, donner l'exemple. Et l'exemple, les enfants, ben, ils ont l'exemple des parents. Et c'est les parents aujourd'hui. C'est les parents qui, je veux dire, font n'importe quoi. Parce que moi, j'interdirais, je veux dire, les enfants, comme moi, j'ai interdit, Laura, d'aller sur les réseaux sociaux, ils y sont allés qu'à partir de 17-18 ans. Mmh. Parce que c'est abominable, c'est devenu abominable. Abominable.
C'est pas très gai notre émission là depuis 13h, mais j'ai peur que vous ayez un peu raison. Je fais juste une parenthèse parce qu'il y a Gabriel Attal qui est en train de parler depuis le palais de l'Élysée et qui fait un rapport sur ce qui s'est dit dans le Conseil des ministres. Nous sommes sur une ligne de crête. La situation est particulièrement préoccupante en Île-de-France, dans les Hauts-de-France et en région sud. Nous devons rester prudents dans les régions où l'épidémie est sous contrôle et objectif de 10 millions de vaccinés d'ici la mi-avril. Voilà ce qu'a dit Gabriel Attal. Ce sont les grandes lignes. C'est vrai, Laurent, que ces réseaux sociaux, on a l'impression que c'est le mal absolu, qu'ils ont tout changé la société. Ils ont changé le monde du journalisme, le monde de la politique, le monde de l'adolescence, le monde des enfants. Cyril est avec nous, qui est principal d'un lycée dans le Loiret. Bonjour Cyril.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs.
Et comment vous faites dans votre lycée, par exemple? Est-ce que les lycéens ont le droit d'entrer avec leur portable?
Alors oui, à la différence du collège, les lycéens utilisent leur téléphone portable dans l'établissement comme bon leur semble, sauf que le règlement intérieur interdit la prise de vue, la prise de vidéo, et on doit éteindre le téléphone quand on est en cours, bien entendu. Mmh. Voilà. Mais je ne suis pas dupe, ça ne se fait certainement pas à tout endroit, tout moment, dans l'établissement. Et je vous rejoins, Pascal, enfin, vous le disiez à l'instant, les réseaux sociaux sont une vraie plaie. TikTok, Snapchat et toute la clique.
Tout le monde ne sait pas d'ailleurs ce qu'est. Alors, Twitter, je pense que tout le monde sait aujourd'hui. TikTok, ouais. Et Snapchat, il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est que TikTok, par exemple.
Alors, TikTok, c'est une application où on se met en scène avec une musique, des gestes répétitifs, etc. Mais on peut tout mettre. En fait, c'est une restitution de vidéo que l'on filme et qu'on met en scène. Et Snapchat, voilà, c'est une prise de vue ou de vidéo éphémère qui disparaît théoriquement, hein, je dis bien théoriquement, dans le quart d'heure qui a suivi sa diffusion.
Et tous vos élèves sont sur réseaux sociaux
Ah, tout à fait, oui.
Dans votre lycée. Le proviseur que vous êtes peut le constater.
Le proviseur que je suis le constate. Je souhaite pouvoir réglementer. Alors le terme va encore faire bondir parce que...
Oui, parce que comment vous réglementez?
Ben, réglementer, c'est d'abord acquérir des codes sociaux. On enlève son écouteur, on range son téléphone quand on rentre dans l'établissement pour
bonne
dire
idée.
Bonjour à la personne qui vous accueille. Mmh. Et ça ne se fait pas encore dans mon lycée. Et je souhaite que l'année prochaine, on y arrive parce que c'est un code social indispensable pour entrer dans le milieu professionnel ou ailleurs, même en tant que citoyen, et qu'il faut acquérir. Et puis, faire usage du téléphone. Moi, je suis partisan de l'utilisation du téléphone dans la salle de classe, comme biode, comme outil que l'on apporte de la maison pour acquérir de la connaissance, faire de la recherche. Vous parliez tout à l'heure, Pascal, enfin avec un auditeur, j'ai retenu son prénom, les jeunes s'informent sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai, mais c'est aussi peut-être à nous de leur montrer. Il y a la semaine de la presse et des médias qui arrivent dans l'éducation nationale la troisième semaine de mars, que l'on peut s'informer en dehors des réseaux sociaux avec d'autres
applications. Oui, quand même, on peut s'informer par la presse.
Podcasts. et écouter les podcasts de RTL, par exemple, qui sont super intéressants. Et il y a plein de connaissances que l'on peut acquérir. Là, ils vont préparer le grand oral, mes terminales. Eh bien, ils peuvent aller sur les réseaux sociaux des médias, des journaux, pour pouvoir préparer leur grand oral, avoir de la matière pour pouvoir l'analyser, la synthétiser et travailler leur scolarité. Donc, c'est pas complètement à rejeter, mais c'est faire un autre usage que de se montrer, de se valoriser, d'insulter, de se moquer. Enfin, moi, je suis exaspéré de ce qui arrive dans notre société à cause de ces réseaux sociaux mal utilisés. Et je demande aux parents, regardez dans le téléphone de vos enfants ce qu'ils font avec. Ils n'appartiennent pas aux élèves. Quand on n'a pas 18 ans, on n'a pas de paye pour se payer le forfait, le téléphone portable. Donc, qui est responsable? C'est le parent. S'il y a un acte de justice, le juge convoquera les parents. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup, Cyril. Il y a des jours, franchement, où je n'ai pas le moral, monsieur Karanoni. Parce que cette société qui avance, où les gens ne lisent plus, où les gens ne s'informent plus, où les gens ne parlent plus entre eux, où les gosses ont des écouteurs dans les oreilles, etc. Mais je trouve ça en fait effrayant. Ça me fait de la peine. J'espère qu'ils ne sont pas tous comme ça et qu'il ne faut pas précisément généraliser.
C'est vrai, je suis assez d'accord avec vous, mais qu'est-ce que je peux faire pour essayer de vous remonter le moral?
Je vais vous dire, vous qui venez de mettre sur terre un petit enfant et peut-être qui pensait à en mettre un deuxième, je me demande aujourd'hui, si j'avais 25-30 ans, si je mettrais sur la terre des enfants avec le monde qui est le nôtre.
Ah oui, bien sûr.
Alors déjà, c'est très gai ce que je dis aujourd'hui. Là, je suis au summum vraiment de la déprime.
Attitude, oui.
Ah, je suis au
en tout
summum
cas, je relève
de la
quelque
déprime.
Chose de positif dans ce que vous venez de dire, oui. C'est que vous avez dit 25-30 ans, or j'en ai presque 10 de plus.
Oui, parce que vous avez fait des enfants tard.
Oui, mais vous trouvez que je suis jeune, voilà, c'est ça que j'entendais.
Non, mais c'est effrayant quand même le monde qui avance. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier, ça fait réagir les réseaux sociaux.
Ça ne manque pas de faire agir, heureusement, parce que sinon je ne serais plus là.
Bien sûr,
mais oui, nous attendons sur d'autres sujets également au standard au 3210 et sur la page Facebook de l'émission. Et cette polémique qui ne retombe pas à Sciences Po Grenoble, hein, le principal syndicat étudiant exige des sanctions à l'encontre des deux professeurs soupçonnés d'islamophobie. Nous continuerons à demander des sanctions tant que ces deux professeurs ne se seront pas excusés. Le syndicat s'est exprimé hier dans une conférence de presse.
Notre démarche s'inscrivait uniquement dans un cadre interne à l'IEP. Nous ne sommes pas responsables de la médiatisation de cette affaire. Nous dénonçons plus globalement la récupération politique faite par la droite et l'extrême droite dans la presse et sur les réseaux sociaux.
Je rappelle que les noms des deux enseignants avaient été inscrits sur les murs de l'établissement avec cette inscription « Des fascistes dans nos amphis », des accusations relayées par des associations étudiantes, dont l'UNEF sur les réseaux sociaux. Et Marie n'y va pas par quatre chemins sur la page Facebook de l'émission. Il faut dissoudre ces associations, mettre la vie de deux enseignants en danger très grave. Et dans cette histoire, ajoute Carole, oui, il y a quand même eu une belle récupération politique. Partagez-vous ces avis, 3210, 3210 dès maintenant.
Et vous savez, la personne que vous venez d'entendre s'appelle Thomas Mandroux. C'est le président de ce syndicat de l'IEP de Grenoble. Eh bien, 144 personnes simplement ont voté pour ce syndicat sur les 1092 inscrits à l'IEP de Grenoble. Il n'y avait en fait que deux listes. Donc 144 personnes, c'est à peine 10%, même pas 10% des étudiants de l'IEP. Donc, ce syndicat ne représente pas, manifestement, la totalité, loin de là même, des étudiants de l'IEP. Il y a très peu d'étudiants qui sont syndiqués aujourd'hui. Il y a très peu d'étudiants à l'université, on le sait, qui sont syndiqués. Les réseaux sociaux, Séverine est avec nous, bonjour. Séverine, bonjour. Vous êtes une mère et c'est ça qui peut aussi nous intéresser. Comment vous gérez à la maison les réseaux sociaux avec les enfants?
Alors, j'ai une fille.
Bonjour.
Bonjour. Et elle ne va pas sur Facebook.
Elle n'y va pas ou elle n'est pas inscrite?
Alors, elle a un compte Facebook, mais elle n'y va pas. Je surveille.
Bah oui, vous surveillez, vous pouvez?
Oui, puisque mon téléphone est couplé avec le sien.
Ah, ça c'est pas mal. Elle a quel âge, votre fille?
Elle a 12 ans, elle va avoir 13 ans. Elle va surtout, c'est sur YouTube. Et YouTube, on peut donner notre avis sur les vidéos qui sont publiées.
Mais quand vous dites quand ces couplets, c'est-à-dire que tout ce qu'elle fait sur son téléphone portable, vous en êtes le témoin ?
Oui.
Je ne savais même pas que ça existait. C'est-à-dire que si elle passe un coup de fil, vous savez à qui elle passe un coup de fil ?
Alors, j'ai couplé le contact entre mon téléphone et son téléphone.
Ça, c'est une pour les parents qui nous écoutent, effectivement, ça peut être une solution intéressante jusqu'à un certain âge. Il ne s'agit pas de fliquer ses enfants,
non,
c'est de les protéger, notamment lorsqu'ils sont très jeunes, comme votre fille.
Oui, tout à fait. Mais ce qui est, c'est que sur, je veux parler de YouTube. YouTube, oui, c'est peut-être pas vraiment un réseau social, mais en fait, si, parce que dessus, on peut mettre les avis. Et des fois, les avis peuvent être assez méchants, ça peut arriver. Et bien, dès qu'elle voit qu'il y a un avis qui est contraire à ce qu'elle dit, qui est vraiment méchant, elle me prévient.
Bon, Séverine, on va pas prolonger la discussion parce que la ligne n'est pas extraordinaire pour tout vous dire. Mais vraiment, ce que vous disiez était particulièrement intéressant. Michel est là et ça sera peut-être notre dernier auditeur sur les réseaux sociaux. Bonjour Michel.
Bonjour. Je vous ai appelé parce que ça me touche beaucoup. J'ai ma fille qui a 17 ans maintenant, qui a été harcelée il y a maintenant 2 ans sur les réseaux sociaux avec photos compromettantes. Et je dirais que la justice n'avance pas. La plainte a été portée à la suite et c'est toujours en cours. Donc,
quel âge elle avait, votre fille ?
Elle avait 16 ans, 15 ans et demi, ils ont là. Hein.
Et pardonnez-moi, mais pour qu'on comprenne, c'est quoi des photos compromettantes ?
C'est-à-dire qu'elle avait un petit ami qui a donc posté, je n'ai jamais voulu regarder, enfin ce sont des photos sans doute dénudées qui ont été dispatchées sur les réseaux sociaux.
D'accord,
quoi.
Donc le petit ami, la liaison s'est arrêtée entre votre fille et le petit ami, et
Tout le petit ami,
qui est sûrement un garçon très délicat, a cru utile de balancer des photos. Et vous avez porté plainte contre le petit ami.
On a porté plainte, elle a fait 2 tentatives de suicide, donc elle est toujours suivie. C'est très très dur et l'affaire est toujours en cours, donc elle a toujours énormément de mal à se sortir de là et je voulais surtout témoigner pour dire que la justice est très lente dans ce genre d'affaires.
Bien sûr, ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est elle qui a porté plainte, bien sûr, ou c'est vous dans ces cas-là
C'est nous qui avons porté plainte,
donc
bien
vous
sûr,
portez
avec son
plainte.
Accord.
Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis la plainte ?
Depuis, on a des contacts, on a un avocat par rapport à une association qui nous dit que l'affaire est toujours en cours, que ça avance, mais voilà, on n'en sait pas plus, quoi. Hein, on n'en sait pas plus.
Ce garçon, par exemple, vous avez tenté une démarche auprès de lui ou auprès de ses parents ?
C'était très compliqué, un milieu social très compliqué, donc c'était pas possible, hein, c'était pas possible. Donc on a bien sûr à l'origine essayé de discuter, mais bon c'était pas possible. Donc il a bien fallu trouver une solution pour que ça s'arrête déjà dans un premier temps. Et puis surtout que notre fille reparte sur de nouvelles bases, mais ça a été et c'est toujours très compliqué quoi.
Elle est aujourd'hui, elle est scolarisée toujours ?
Elle est toujours scolarisée, toujours très 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 compliquée, très compliquée. Et je pense que
et avant cette affaire, il n'y avait jamais eu le moindre souci psychologique avec votre fille.
C'est-à dire que non.
Donc c'est vraiment
rien.
Ce qui l'a mis par terre, si j'ose dire.
Tout à fait. Et je dis que les réseaux sociaux aujourd'hui sont très dangereux pour nos enfants, très dangereux, très dangereux.
Non, mais on le constate effectivement tous, parce qu'on est tous parents, effectivement. Et c'est horrible ces réseaux. C'est une poubelle les réseaux sociaux. Parfois, pas toujours, mais parfois, et notamment ce réseau Twitter, et je ne comprends pas que l'anonymat, moi, ne soit pas levé, parce qu'il me semble que si on levait l'anonymat, au moins sur Twitter, qui est très influent, ça changerait évidemment les messages. Mais on est les premiers responsables. Hein. Nous, les journalistes, à force de citer Twitter, à force de citer ce qui se dit, à force de dire la tendance sur Twitter, etc. Bon, ben voilà, on a la monnaie de notre pièce. On a créé Twitter nous-mêmes et on a crédibilisé ce média. 13h38, nous allons parler de Sciences Po Grenoble. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Avec Laurent Tessier, on va peut-être présenter d'autres sujets.
Oui, vous pourrez répondre à ces questions dans quelques instants. Les dessins animés de notre enfance sont-ils en danger, dépassés par le nouveau monde, ses nouvelles mentalités? Et bien après la polémique autour des Aristochats, de Peter Pan, de Monsieur Patate, voilà maintenant que l'on s'attaque aux Looney Tunes et notamment Pépé le Putois. Le célèbre compagnon de Bugs Bunny et Daffy Duck, Pépé le Putois, n'apparaîtra pas dans le nouveau Space Jam, la suite du film, un dessin animé des années 90 avec Michael Jordan. Il est au cœur d'une polémique, obsédé dragueur lourd qui ne lâche jamais. Il enlace et embrasse Pénélope, une chatte noire, alors qu'elle tente de s'échapper. Et un chroniqueur du New York Times estime qu'il contribue à normaliser la culture du viol. Si vous ne connaissez pas Pépé le Putois, écoutez-le.
Dans mes bras, ma chérie, il ne faut pas lutter contre sa destinée. Embrassez-moi, puisque l'amour nous réunit. Rassurez-vous, elle craquera. C'est juste une question de temps.
La bêtise n'a plus de limite, un scénar tiré sur la page Facebook de l'émission. Ce monde est devenu fou, on s'en prend à Monsieur Patate. Maintenant, Pépé le Putois, ajoute Gaël, laissez nos dessins animés tranquilles. Et c'est quoi la suite maintenant, demande Joël. Les véganes vont s'attaquer à Astérix et Obélix qui mangent du sanglier. Bon, c'est peut-être idiot de le dire, mais oui, soupire Patrick, c'était mieux avant. Et pour Véronique, il n'y a pas mieux que la phrase de Michel Sardou chez nos amis de Laissez-vous Tenter sur RTL.
Je hais cette époque. Je hais ce siècle. On n'a plus aucune liberté. Et merde.
Voilà.
Merde, ça va.
Si vous partagez cet avis, 3210.
Vous savez que ça, c'est une des phrases préférées de Victoire de Reims et de Thomas Soto. Je hais cette époque. Et comme je les comprends. C'est pas qu'on hait cette époque, d'ailleurs. C'est que lorsqu'on a eu 55 ans, on se souvient comment la vie était lorsqu'on en avait 20 ou 25. C'est ça qui fait peur. Alors, Amine est avec nous. Bonjour, Amine.
Oui, bonjour Pascal.
On change de sujet. Nous parlons de Sciences Po Grenoble.
Oui, tout à fait. Merci Pascal Pro de me laisser prendre la parole.
Ben, je vous en prie.
Je trouve que l'attitude de ces syndicats qui s'expriment soi-disant au nom de la majorité des étudiants ne représente qu'eux-mêmes. On est en train, monsieur Pro, on est en train d'accepter l'inacceptable. L'islamophobie, monsieur Pro, n'est pas un délit. On a le droit d'être islamophobe parce que l'islamophobie, c'est tout simplement avoir peur. Avoir
alors, il faut peut-être recadrer le sujet, parce que tout le monde ne sait pas exactement de quoi on parle. Ce qui se passe, c'est qu'à l'automne dernier, on imagine une réunion de travail ou un colloque avec islamophobie, racisme et antisémitisme. Là-dessus, il y a un prof qui dit on ne peut pas mettre les trois mots l'un à côté de l'autre, parce que délit pour antisémitisme, délit pour racisme, mais l'islamophobie, comme vous venez très justement de le dire, ce n'est pas un délit. Donc on ne peut pas les mettre sur le même plan. Échange entre ce professeur et une autre professeure, et puis les syndicats s'en mêlent, et puis l'organisation, les collègues s'en mêlent, et puis la direction s'en mêle, et on en est arrivé donc à cette situation où ce prof, Klaus Klinskler, et un autre ont été désignés par une partie des étudiants, des syndicats d'étudiants, disons-le, notamment l'UNEF, comme islamophobes, avec leur nom placardé sur les murs de l'IEP de Grenoble. Je vous laisse la parole, Amine.
Merci Pascal Pro. Et sur ce sujet, pour moi, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est d'abord la question de l'islamophobie. L'islamophobie n'est pas un délit. On a le droit aujourd'hui d'avoir peur des conséquences dramatiques de l'islamisme, et nous l'avons vu avec l'affaire Samuel Paty. Et puisqu'on parle de ce professeur à qui je veux rendre hommage au regard des circonstances et de l'actualité dramatique, je trouve que l'attitude de ces syndicats d'extrême-gauche, en affichant aisément le nom de ses professeurs en appelant à la haine n'est ni plus ni moins qu'une attitude anti-républicaine, parce que n'oublions pas que le professeur Samuel Paty a été abattu dans ces conditions. Et si on accepte aujourd'hui de dire que l'islamophobie est un délit et que par conséquent il faut priver la parole et admettre un droit à la censure au nom de l'islamophobie, alors les ennemis de la République, c'est-à-dire les terroristes, auront gagné. Il n'y a qu'un pas, monsieur Pro, parce que je rappelle que l'enseignant Samuel Paty a été abattu justement dans ces conditions parce que on lui a omis son droit à la liberté d'expression. Nous sommes un état de droit et je crois, monsieur Pro, qu'il faut se battre corps et âme. Et je le dis parce que d'autant plus fort et d'autant plus fièrement que je suis issu, monsieur Pro, d'une famille de culture musulmane. Et il faut évidemment soumettre l'islam à la critique. Je le dis ainsi parce que l'islamisme, et je l'ai connu personnellement, a emporté ma propre sœur qui est partie en Syrie. Et si on laisse, évidemment, ces discours de haine, et si on laisse à côté de ces discours de haine, leurs complices, c'est-à-dire celles et ceux qui veulent instituer un délit d'islamophobie dans notre pays, alors les terroristes auront gagné.
Bah merci pour ce témoignage extrêmement fort. Et c'est vrai qu'il faut le dire, on peut être catophobe, on peut être judéophobe, on peut être islamophobe. C'est une possibilité que chacun peut avoir. On marque une nouvelle pause et puis on va terminer avec Amine parce que votre témoignage est particulièrement poignant. Donc à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Je crois, Grégory, qu'aujourd'hui, nous avons un petit cadeau pour tous les auditeurs qui passent à l'antenne.
Vous connaissez Éric Jean-Jean, bien sûr.
J'adore Éric Jean-Jean.
Qui sort un livre aujourd'hui.
Tous les soirs.
Bonus track à partir de 21h chaque soir.
Exactement.
Bien écoutez, Isabelle.
Toute la journée sur RTL, chaque auditeur qui passe à l'antenne remporte le livre Histoires insolites de la chanson française d'Éric Jean-Jean. Coulisses et anecdotes sur la chanson française sont dans Histoires insolites de la chanson française d'Éric Jean-Jean.
Ce sont tous les auditeurs qui passent ou qui sont déjà passés sur l'antenne, bien sûr.
Alors, je vous rappelle que les deux enseignants visés par les accusations d'islamophobie à l'Institut d'études politiques de Grenoble font l'objet de mesures de protection susceptibles d'être renforcées. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin. Leurs noms, je l'ai rappelé tout à l'heure, ont été affichés à l'entrée de l'établissement, accolés aux mots fasciste, islamophobie. L'islamophobie ne tue pas en France. L'islamisme tue peut-être, mais l'islamophobie, je ne crois pas que l'islamophobie tue. Et on termine avec Amine, qui est juriste à Roubaix et qui expliquait combien il fallait garder cette possibilité de débat.
Évidemment, tout à fait, Pascal Pro. Il faut aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, soumettre évidemment l'islam à la critique. L'islamophobie ne tue pas. En revanche, je sais que plusieurs centaines de personnes sont mortes au nom d'individus qui ont agi au nom de l'islam. Et donc, elle est là aujourd'hui, la nuance. Il faut évidemment soumettre l'islam à la critique. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas et si je ne m'abuse pas, ces enseignants proposaient justement d'étudier la question de la place de l'islam dans le monde contemporain. Évidemment que notre société évolue. Évidemment que c'est aux religions de s'adapter au cadre républicain. Et à mon sens, la République se place bien évidemment au-dessus des religions. Il faut évidemment protéger la laïcité. Il faut évidemment protéger nos valeurs, les valeurs de la République qui font évidemment ce pacte commun de la vie en société. Et moi, je trouve aujourd'hui l'attitude de ces syndicats très grave. Je trouve évidemment que ces professeurs ont également été lâchés par leurs collègues du corps enseignant à travers des syndicats qui ne représentent qu'eux-mêmes. Ces mêmes syndicats qui refusent, rappelons-le, le terme d'islamo-gauchisme. Et donc, c'est pour ça que ces syndicats veulent opposer à l'islamo-gauchisme l'existence même de l'islamophobie qui, rappelons-le, n'est pas un délit, d'une part, et d'autre part, on a le droit, comme moi, je le suis, on a le droit d'être islamophobe parce que j'ai peur, évidemment, des conséquences de l'islamisme sur ma famille, sur ma propre vie, sur ma santé, parce qu'évidemment, les islamistes cherchent à nous faire taire, comme ils le font au quotidien, aussi bien à l'échelle locale qu'à l'échelle nationale.
Eh bien, merci beaucoup, Amine, de ce témoignage. Et c'est vrai qu'en plein débat sur l'islamo-gauchisme lancé par Frédéric Vidal, où on nous a expliqué que ça n'existait pas, que c'était un concept qui n'avait aucune réalité scientifique, que, évidemment, les universités étaient à l'abri de cela, bien s'il fallait, par l'exemple, précisément, un cas d'islamo-gauchisme qui a pu exister, on a vu ce qui s'est passé dans cette IEP de Grenoble. Foued est là. Bonjour, Foued, qui est enseignant et qui habite Strasbourg et qui nous appelle de temps en temps, je dirais. Bonjour, Foued.
Bonjour, bonjour, Pascal.
Et merci d'être avec nous. Quelle réflexion cela vous inspire ?
Il y a quelque chose d'assez singulier dans cette affaire, en fait. Quelque chose qui m'a étonné, c'est que on prononce sans arrêt le mot islamisme, islamo-gauchisme, islamophobie, mais à aucun moment on nous parle des propos qui sont incriminés. C'est-à-dire que tout le monde on sait vaguement qu'il y a une histoire de reproche d'islamophobie qui a été fait, que ces gens, que les noms ont été affichés, et on a l'impression que c'est autosuffisant.
Non, mais là, on ne leur reproche pas d'être islamophobes, en l'espèce. On leur reproche à M. Kinsler d'avoir voulu ne pas mettre sur le même plan islamophobie, racisme et antisémitisme. C'est ça, la genèse de cette affaire.
Oui, mais justement, c'est le problème justement sur la genèse de cette affaire, c'est que
On ne lui reproche pas lui-même d'être islamophobe. On a mis islamophobie. Mais je le répète, ce professeur de l'IEP de Grenoble, il a réagi face à ce colloque, cette réunion, je ne sais pas exactement comment le dire, qui mettait ces trois termes l'un à côté
de
l'autre.
Oui, justement, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'on a le sentiment qu'à l'heure actuelle, si on veut nuire à quelqu'un, on n'a qu'à justement dire qu'il est affiché son nom, mettre islamophobie.
Bah, c'est la vieille technique, effectivement.
Et justement, pourquoi est-ce que finalement on n'a pas mis en avant le reproche qui a été fait? C'est-à-dire que moi, je suis assez informé, et à aucun moment, on a prononcé le mot islamophobie, et même les personnes qui l'ont accusé, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas mis en avant, comme si c'était un peu creux.
Donc, mais c'est la vieille technique de l'extrême gauche, de disqualifier l'adversaire en le traitant de fasciste, d'extrémiste de droite, aujourd'hui d'islamophobe, etc. Vous savez, c'est habituel, le général de Gaulle, dans une conférence de presse, déjà la question lui avait été posée en 58 quand il revient au pouvoir, et il dit « Pourquoi voulez-vous qu'à 70 ans, je commence une carrière de dictateur ?» Et on a écrit de lui que c'était le coup d'État permanent. Donc, la gauche a toujours voulu historiquement dire des gens de droite qu'ils étaient soit fascistes, soit factieux, soit dirigistes, etc. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
La dérive, le danger, oui, mais c'est un peu peut-être encore amplifié.
On pourrait dire facho Chirac aussi. Les gens ont oublié, mais à l'époque, oui, Chirac était qualifié de facho.
Voilà, et c'est ce qui me dérange clairement, c'est que maintenant, il suffit d'accoler une épithète et puis on détruit.
Oui, enfin, personne n'est dupe vraiment non plus, mais ces syndicats, sont minoritaires de toute façon.
Oui.
François est là également, qui habite Orbec. Bonjour François.
Oui, bonjour Pascal. Eh bien, écoutez, moi je vous ai écouté, j'ai bien aimé l'intervention d'avant, là, de
Amine.
Intéressant,
Amine.
Très très intéressant. Et puis moi j'ai remarqué
en fin de compte
et j'ai remarqué qu'en fin de compte tout ça c'était dû aussi à un cours qui était donné sur, comme il disait, sur la place de la religion, l'islam, par rapport à la France contemporaine. Mais en fin de compte il faudrait peut-être mieux se poser la question de la place de la religion dans la République. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu une arme de pas de guerre, mais presque. C'est-à-dire que dès qu'une personne va parler de l'islam, on va le traiter d'islamophobe. Et il suffit de lire le Coran pour s'apercevoir que, l'islam n'est pas forcément la religion la plus gentille en soi, et c'est certainement la plus conquérante aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire que l'islam aujourd'hui cherche à prendre une position dans le monde de dominant. Et il ne faut pas oublier que les professeurs qui sont maintenant sous protection, moi je trouve ça terrible. C'est-à-dire que dans son propre pays, un professeur est obligé d'avoir une protection policière pour se protéger de risques de mort par rapport à son travail qui est simplement celui d'enseigner. Et l'UNEF n'est pas pour rien dans cette affaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si la présidente de l'UNEF n'est pas voilée, celle qui est souvent représentée dans les médias de l'UNEF porte le voile islamique. Et on peut me le dire comme l'on veut, mais c'est plus par une provocation que par le désir de dire « voilà, je suis musulmane ». Parce qu'il y a plein de musulmanes qui n'ont pas le voile pour autant, et surtout pas devant les médias. Et donc je pense que ça, c'est important. Et la plus grande crainte que j'ai, moi, c'est que notre République un jour sombre un petit peu dans une guerre où la gauche va malheureusement entraîner une majorité de personnes, parce que faut pas oublier qu'il y a toute une génération qui est maintenant de l'âge de 20 ans qui sont musulmans. Certains sont très bien intégrés et d'autres malheureusement vont dériver vers un islam radical qui risque d'être terrible pour la France.
Merci François, merci beaucoup de cette analyse. La pause, le flash de 14h et nous sommes présents ensemble jusqu'à 14h30.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Il est 14h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pépé le putois doit-il disparaître des écrans? Incroyable question. Georges.
Oui, bonjour Pascal Pro.
Oui ou non?
Ah bah pour moi, non.
Non, Eh bien, bonjour Georges. Et on en parle après. Le flash de Olivier.
Et le littoral des Alpes-Maritimes va rester confiné ce week-end avant d'étudier la suite la semaine prochaine. C'est Gabriel Attal qui vient de l'indiquer à l'issue du Conseil sanitaire de défense. Le porte-parole du gouvernement explique que même si le taux d'incidence a baissé dans la région de Nice de 22%, il reste très élevé. En revanche, c'était attendu. Statu quo pour le moment, pas de reconfinement en Île-de-France malgré la hausse du nombre de cas. Mais des patients pour soulager les hôpitaux vont être évacués vers d'autres régions dans les jours qui viennent. Rappelons qu'au niveau national, on approche désormais en France de la barre des 4000 malades en réanimation. Ce chiffre est en hausse continue depuis plusieurs semaines. Le gouvernement qui veut desserrer les taux dans les EHPAD, la moitié des résidents désormais a reçu les deux injections depuis au moins 3 semaines. Les sorties devraient être facilitées et la ministre en charge, Brigitte Bourguignon, affirme qu'elle ne veut plus de plexiglas entre les familles pendant les visites. Le choc et l'émotion toujours à Argenteuil après la mort d'Alisha, âgée de 14 ans, morte noyée, jetée à l'eau par des camarades de son école. La garde à vue des deux suspects, un garçon et une fille de 15 ans, doit se terminer ce soir. Le procureur de Pontoise va donner une conférence de presse à 17h. On évoque, vous le savez, la piste d'une rivalité amoureuse et le fait qu'Alisha avait été harcelée ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Le football, le PSG reçoit Barcelone ce soir, à suivre sur RTL évidemment à partir de 20h45, coup d'envoi 21h. C'est le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Victoire, on le rappelle, 4-1 du PSG à l'aller. Et puis l'OM reçoit Rennes à 19h. Ça, c'est un match en retard de Ligue 1. Le premier match d'ailleurs de Sampaoli sur le banc de l'Olympique de Marseille, Pascal.
Merci Olivier Bois.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal.
La musique de Sakartoon. Et précisément, les dessins animés de notre enfance sont-ils en danger, dépassés par ce nouveau monde, ces nouvelles mentalités? On s'attaque donc à Pépé le Putois, qui est le célèbre compagnon de Bugs Bunny et de Daffy Duck. Pourquoi? Parce que il est obsédé, parce qu'il est dragueur, parce qu'il est lourd, il ne lâche jamais, il enlace, il embrasse Pénélope, une chatte noire, alors qu'elle tente de s'échapper. Et même un chroniqueur du New York Times estime qu'il contribue à normaliser la culture du viol. Nous sommes en 2021, ce sont les sujets du jour, on peut effectivement les regretter. Georges est là. Georges, Pépé oui. Le Putois, qu'en pensez-vous?
Bonjour. Bonjour à tous et puis merci d'avoir repris
mon
appel. Ou, merci beaucoup. Bien, moi non, je pense pas, vraiment pas que ça soit l'image que ça représente. Quoi. Enfin, On a des dessins animés bien plus gras, quoi. Et enfin, on les interdit pas, on revient pas dessus, quoi, je veux dire. Donc moi je trouve que c'est un peu débile, enfin, c'est un sujet un peu, enfin je trouve ça débile, quoi. C'est vraiment pas, voilà, il y a d'autres choses bien plus importantes pour qu'on puisse je sais pas, on a tous regardé les sacs cartons et puis on n'est pas 60 millions de violeurs, quoi. Donc c'est un peu débile tout ça, quoi.
Alors, on va essayer de trouver quelqu'un qui ne pense pas comme vous et qui essaye de nous convaincre. Pourquoi pas? Laurence est là. Bonjour Laurence.
Oui, bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes pour la suppression de Pépé le Putois?
Oui, et puis vous voyez, je trouve ça très étonnant d'ailleurs, parce que la première personne que vous prenez et qui vous dit que c'est pas grave, eh ben, c'est un homme. Et ça montre bien le problème, parce qu'en fait, effectivement, alors oui, c'est vrai que c'est pas grave, qu'il y a des choses plus graves, mais comme je disais tout à l'heure, en fait, on apprend à des petits, tu vas voir, c'est normal, les filles, il faut pousser, et après, elles finissent par dire oui. Alors, bien sûr qu'un enfant petit ne va pas comprendre ça comme ça. Mais malgré tout, les enfants, ils apprennent aussi par la télé, ils apprennent par les films, et ils refont ce qu'ils voient.
Mais comme on leur dit. J'ai regardé, quand j'étais enfant, des dessins animés, et je n'ai violé personne, Laurence.
Eh bien, heureusement.
Et tous les hommes, je pense, sont comme moi, bien évidemment. Convenez que le nombre de gens qui ont regardé un dessin animé, je ne crois pas qu'ils aient été influencés par l'idée d'ensuite de violer une jeune femme.
Alors, d'accord. Mais par contre, vous voyez, on habite en région parisienne. Quand vous prenez le métro, on en parle depuis longtemps. Les gens qui se permettent de tripoter une plus jeune parce qu'elle est habillée un petit peu court et tout ça. Ça fait partie de cette culture, justement, du viol. Parce que, sont drainées dans la tête des garçons plutôt d'ailleurs que une fille. Eh ben si elle est pas, si elle est habillée un petit peu court, si elle vous sourit, enfin voilà, on a un petit peu tous les droits sur une fille. Donc et ça ce sont des choses. Oui bien sûr que tout le monde n'est pas un violeur, mais ce sont des choses finalement qui nous rentrent insidieusement dans la tête. Et puis qui font dire que les filles, voilà, si elles rentrent pas dans la case princesse bien habillée, qui baisse les yeux, qui ne répond pas, parfois pour certains, on peut faire n'importe quoi. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas la même éducation.
Alors Alain vous écoute et Alain peut peut-être vous répondre. Alain oui. Qui habite Tours et qui peut échanger avec Laurence, parce que j'ai le sentiment en voyant votre fiche que vous ne partagez pas ce que pense Laurence.
Bonjour Monsieur Proulx, bonjour Laurence. Je bouillonne. Bonjour. Bonjour.
Bon, vous êtes un homme, donc déjà voilà, pour Laurence, votre avis, votre avis ne vaut rien, si j'ose dire, sur
non,
ce sujet.
Oh non, je ne me permettrai pas de dire
bah,
ça.
C'est ce que vous dites un peu. Vous dites finalement, vous dites les hommes pensent comme ça et les femmes pensent autrement. Je vous le reproche pas d'ailleurs. Hein.
Oui, oui, c'est la vision. C'est, bien entendu que ce que va dire Monsieur est important, mais que la vision de ces événements-là est effectivement pas la même qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, puisqu'en fait la femme, elle subit les assauts répétés du « est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux ?» voyez, jusqu'aux certaines qui disent oui parce qu'elles n'en peuvent plus ou qui ne sont pas capables de dire non. Et donc c'est la vision.
Bon. Alain va vous répondre après la pause. Oui. Alain va vous répondre après la pause. A tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Comme je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse Pépé le Putois, je vous propose d'écouter ce qu'il dit dans les dessins animés.
Il ne faut pas lutter contre sa destinée. Embrassez-moi, puisque l'amour nous réunit. Rassurez-vous, elle craquera. C'est juste une question de temps.
Alors évidemment, avec la grille de lecture d'aujourd'hui, on peut entendre les arguments de Laurence. C'est pour ça que c'est toujours intéressant, parce qu'on peut toujours trouver que tout le monde a raison de son point de vue. Alain, vous répondez à Laurence.
Bonjour, rebonjour.
Rebonjour, et vous disiez que vous bouillonnez.
Oui, je bouillonne, parce que ça n'est pas, c'est pas un dessin animé, comme vous le disiez très justement. Qui peut donner, à mon avis, envie d'exaction envers les femmes. C'est juste une question d'éducation. Et au-delà de tout simplement ces interdictions, finalement, j'ai peur, parce que demain, on va interdire Gottlieb, et Porteur Pépère, les femmes en blanc, Franquin, ses idées noires, Bécassine. Est-ce que ça a influencé ma vie ? Non, j'ai du respect envers les femmes, comme j'ai du respect envers tout autre être humain. Nous rentrons là dans un schéma qui me fait peur. C'est 1984, après l'heure. C'est George Orwell. On y est.
Laurence vous répond.
Oui, alors je suis d'accord avec vous, ce n'est pas un dessin animé, mais c'est tout un ensemble de dessins animés et de façons de voir la vie. Et c'est pour ça qu'il faut changer les choses. Moi, comme également vous disiez tout à l'heure, je vous entendais dire, ou Michel Sardou qui dit, c'était mieux avant. Mmh. Mais c'était mieux avant pour qui ? Pas pour tout le monde. Là, j'avais ça en tête. Vous dites à Barack Obama, est-ce que c'était mieux avant ? Mais s'il avait eu 40 ans dans les années 70, il ne serait pas devenu président de la République. Vous voyez, les choses, elles évoluent. Mmh. Et ça évolue. Et
mais alors la Belle au bois dormant, par exemple, qu'on embrasse sans son consentement, pareil.
Ah, alors...
Pareil. Non, parce que si on applique ces grilles, pourquoi pas, hein ? Moi, la Belle au bois dormant, elle est embrassée sans son consentement. Ouais. C'est un prince charmant qui la réveille. Ben moi, si j'applique votre grille de lecture, je dis voilà, c'est un homme qui embrasse une femme sans son consentement. Culture du viol, on interdit la Belle au bois dormant.
Alors, je vais vous dire que non. D'abord, parce que justement, moi, je ne suis pas extrémiste. Donc, je ne dis pas tout dans le même panier.
Bah oui, mais là, qu'est-ce qui vous choque moins dans La Belle au bois dormant ? Moi, je trouve que c'est pas bien d'embrasser une femme. C'est même. Alors, je trouve que c'est au-delà même de Pépé le Putois, si vous me permettez.
Je suis bien d'accord avec vous. Sauf que là, on est dans
un. Il y a l'acte.
Animé. et on veut la réveiller. Donc j'étais moi dans l'aviation. Il y a une époque quand des gens étaient, par exemple, tombés dans les pommes. À l'époque, hein, quand j'étais jeune, on faisait du bouche à bouche. Bon, bah maintenant, c'est des trucs.
Oui, quoi, là, c'est le prince charmant, il ne fait pas du bouche à bouche. Vous savez bien, vous biaisez un peu, chère Laurence.
Mais bien sûr que je biaise un petit peu.
Parce que le symbole qui est donné. Je reprends votre grille de lecture. Le symbole qui est donné à un petit garçon, c'est que s'il embrasse une femme qui dort, eh bien, elle va se réveiller et elle sera contente. Pardonnez-moi de le dire comme ça.
Oui, et bien alors peut-être que finalement, vous voyez, moi, je ne l'avais pas vu jusqu'au bout comme ça.
Mais moi non plus, je dis avec votre grille. J'applique votre grille.
Non, mais vous serez d'accord avec moi que Pépé le Putois dit « elle va finir par céder ». Et vous voyez que là, quand on le voit à l'aune de tout ce qui se passe actuellement, on peut se dire que là, quand même, c'est embêtant, ça pose problème. C'est pas anodin, hein, avec la chatte. Alors, je connais pas trop ce dessin animé, mais simplement ce que j'en ai entendu avec la chatte là qui pousse un cri de d'orfraie, là, c'est effectivement, on peut pas accepter ce genre de choses. Hein.
Ben, en madame, tout cas, Laurence. Madame, oui, Alain, allez-y.
Oui.
Madame Laurence, j'ai peur. Hein, j'ai peur avec des réflexions comme les vôtres. J'ai peur en l'avenir. Parce que finalement, c'est vraiment grave hein, ce que vous dites. Effectivement, nous allons interdire, nous allons revenir à une idée pure où les hommes, les femmes doivent se respecter absolument. Je ne sais pas comment m'exprimer par rapport à ça, mais...
Eh oui, parce que se respecter, ce n'est pas choquant, ça c'est quand même quelque chose de basique.
C'est quelque chose de basique, mais qui vient de l'éducation, madame. Ça vient de l'éducation, ça ne vient pas. Ça ne vient pas spécialement de dessins animés ou des choses comme ça. Ça nous a fait rire, étant enfant. Et ça me fait encore rire de voir Pépé le Putois. Parce que c'est juste sympa. C'est juste rigolo. Ça n'a pas d'autre... Ne cherchez pas ailleurs. Ne cherchez pas d'autre chose. C'est juste anodin.
Non, voilà. Ce n'est pas anodin.
Laurence.
Et vraiment, autant la Belle au bois dormant, je veux bien l'entendre, autant là, eh bien, c'est justement tous les harcèlements de rue. Moi, j'ai deux filles et j'ai passé mon temps avec la seconde à regarder comment elle était habillée pour prendre le RER parce que, alors, c'est vrai qu'elle me dit « Ah, mais je dois pouvoir m'habiller comme je veux. » Oui, dans une société idéale, tu pourrais t'habiller comme tu veux. Simplement, on n'est pas dans une société idéale. Hein, on n'est pas dans le monde des bisounours et on sait très bien que des jeunes filles, elles peuvent se faire agresser dans le métro et parfois c'est simplement la tenue qui attire l'œil.
Donc, alors ça, vous me sidérez aussi parce que là, vous me sidérez, Laurence. C'est-à-dire que vous vous soumettez d'une certaine manière à la doxa du moment, c'est-à-dire que vous demandez à votre fille de changer de tenue.
Mais parce qu'on n'a pas le choix. Parce que le monde, justement, c'est pas un monde avec que des gens bien éduqués.
Alors, elle avait quel âge, votre fille, quand vous lui dites ça? Parce que c'est une question d'âge aussi qui est importante.
Ah bah, écoutez, même à 17 ans ou à 16 ans, voilà, il faut faire attention. Parce que le regard de certains n'est pas un regard gentil.
Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais vous avez évidemment raison.
Donc j'en reviens à Pépé le Putois, à force de voir des dessins animés ou d'entendre des choses quand on est petit, parce que vous dites effectivement il faut l'éducation, mais on sait bien que tout le monde éduque pas les enfants de la même façon, que si moi j'ai éduqué mes enfants en leur disant il faut être poli, il faut faire attention aux personnes âgées, il y en a certains, pour certains c'est faut que tu montes ta force.
Bon, écoutons Anne-Sophie, parce qu'Anne-Sophie est une femme et elle n'est pas d'accord avec vous. Anne-Sophie, après la pause peut-être, Anne-Sophie, parce que là c'est une femme, Laurence, donc son avis compte double, c'est normal. À tout de suite.
À 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Alors pour ceux qui nous rejoignent, c'est un débat essentiel. Pépé le Putois, il est dragueur, il est obsédé, il est lourd, il ne lâche jamais, il enlace, il embrasse Pénélope, une chatte noire. Et certains disent, Pépé le Putois, dans les dessins animés, ce n'est plus possible. Donc Anne-Sophie est avec nous, qui habite en Seine-Maritime et qui voulait absolument réagir. Bonjour.
Oui, bonjour. Merci beaucoup de me donner la parole. Effectivement, je suis un peu choquée que ce soit un réel débat. Pourquoi je suis choquée ? Parce que je pense qu'il y a des débats beaucoup plus importants aujourd'hui en France. On pourrait parler du chômage, on pourrait parler justement de la violence, on a parlé aussi du harcèlement sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a des sujets très importants et je pense que ce sujet est un faux sujet, c'est un non-sujet même. Moi, Pépé le Putois, je l'aime beaucoup. Il m'est très affectueux. C'est le surnom de mon fiancé, mon futur mari en plus. Donc j'y vois une touche humoristique et je suis féministe, profondément féministe, mais je trouve que supprimer des personnages pour leur couleur ou pour leur
Oui, mais faut aller sur les arguments, Anne-Sophie. Lorsque Laurence dit c'est la culture du viol, on transmet l'idée à des petits-enfants qu'ils vont embrasser, qu'ils vont lancer, qu'ils vont forcer une femme. Voilà les arguments de Laurence. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Eh ben, je lui dirais que dans ce cas-là, elle a très peu de connaissances sur le sujet, parce que dans ce cas-là, elle saurait que... J'ai entendu des choses très scandaleuses qu'elle a dit, qu'on pouvait faire tripoter dans le bus ou dans le métro si on habillait court, mais je peux lui garantir que moi, de ma cinquième jusqu'à aujourd'hui, je me fais tripoter même en pull, en jean, basket, en col roulé, et je me mets plus en jupe, et je me mets plus en chemisier ou en décolleté, et qu'on se fait embêter, et c'est pas à cause de Pépé le Putois, c'est parce qu'on sait pas éduquer les hommes à respecter les femmes. C'est parce qu'on ne sait plus aujourd'hui mettre de limites dans notre société. Et parce qu'on
c'était
ne sait
pire avant, Anne-Sophie. Là, franchement, le rapport des hommes avec les femmes, il était pire avant. Parce que dans le temps, c'était dans les non-dits et c'était demander aux femmes qu'on travaillait dans les années 60-70 qu'elles ont subi dans les milieux des hommes.
Au moins aujourd'hui. Moi j'ai 33 ans, je ne sais peut-être pas. Hein.
Aujourd'hui, comme dit l'autre, la peur a au moins changé de camp. Les gens savent que s'ils franchissent la ligne rouge, les femmes parleront. Et tant mieux.
C'est vrai. Maintenant, on a une liberté de parole qui est un peu plus grande, évidemment. Oui. C'est ce qui s'est amélioré dans notre société.
Avant, elles se taisaient parce qu'elles n'avaient pas le choix. Et quoi, elles n'avaient pas le choix, oui, parce que c'était très très compliqué dans la société telle qu'elle était organisée.
Mais je dirais à cette dame, à cette Laurence ou Florence, Laurence, qu'il y a bien pire que Pépé le Putois. Moi, je préfère voir 1000 fois des Pépé le Putois sur les écrans de ma fille qui a 2 ans, plutôt qu'elle voit sur des YouTube, on en parlait avant, sur les réseaux sociaux, des personnes qui se mettent à moitié à poil pour faire le buzz.
Ça, bon. Je trouve que c'est Laurence vous répond.
Ça, je trouve que c'est plus dangereux.
Laurence dialogue avec vous.
Oui. Alors je suis 10 000 fois d'accord avec vous. Il y a des sujets plus graves, c'est évident. Bon, alors maintenant, on est parti sur ce sujet-là. Donc, parlons de ce sujet-là. Et justement, vous parliez de mettre des limites. Et c'est ça qui... qu'il faut faire. Il faut mettre des limites. Et donc, eh bien, ce genre de dessin animé, même s'il n'est pas gravissime et même si ce n'est pas à cause de ça qu'il y a des viols ou des tripotages, c'est un élément en plus. Et c'est là où c'est justement important parce que, en fait, ça passe presque inaperçu. C'est-à-dire que c'est ce petit truc qui fait que où on véhicule, et j'en reviens toujours à cette phrase, moi, qui me choque, à la fin, elle finira par céder. Et quand vous dites, justement, vous apportez plutôt de l'eau à mon moulin, quand vous dites, moi, même quand je suis dans le métro avec un pantalon large et un vêtement large, je me fais tripoter. Voilà, parce que les petits garçons, eh bien, des petits, certains n'ont pas appris que on n'est pas, c'est pas open bar. Que
Laurence, par exemple, peau d'âne, regardable.
Oui. Alors, bon,
Podone, par exemple, un père qui veut épouser sa fille, regardable.
Écoutez,
non mais je vous pose des questions.
Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça
regardable. Aujourd'hui, le film de Jacques Demy avec Catherine Deneuve et Jacques Perrin et Jean Marais.
En tout cas, comme vous disiez aussi tout à l'heure, c'est de mettre. Parfois, il faut expliquer les choses.
On peut pas expliquer un père qui veut épouser sa fille, c'est pas possible. D'ailleurs, il y avait la chanson "On n'épouse jamais". Que chantait Delphine Seyrig, qui était merveilleuse.
Alors, c'est vrai que ce genre de truc est un peu compliqué. Alors, parce qu'après, comme je vous dis, moi, je ne suis pas une aficionado ni une extrémiste à dire il faut tout changer, il faut tout enlever. Mais c'est vrai qu'il y a des explications à mettre, qu'il y a certaines choses
qu'il faut
changer.
Eh bien, merci. C'est toujours un peu rude de vous couper la parole, Laurence et Anne-Sophie. Et il y avait Evelyne également qui voulait réagir. On pourrait continuer cette discussion parce qu'il y a tout dans cette discussion de la société d'aujourd'hui. Donc, je vous propose que demain, peut-être, on fasse encore quelques secondes là-dessus. Pour le moment, c'est le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Le harcèlement scolaire au programme des auditeurs ont la parole aujourd'hui. Comment lutter contre ce fléau qui touche 700 000 élèves? Les réseaux sociaux vous inquiètent-ils? Quelle est la responsabilité des parents? Charles est enseignant, il nous a donné son avis.
Les mineurs de maintenant ne sont plus les mêmes que ceux d'il y a 30 ans. Et je pense que la responsabilité, elle est celle des parents. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a une génération de parents qui sont dans l'incapacité d'être parents. C'est-à-dire de mettre des limites, d'éduquer au sens noble.
Pierre est professeur d'histoire. Géographie, une plainte peut-elle être efficace en cas de cyberharcèlement?
Avant de déposer plainte, il faut déjà oser en parler. C'est pas forcément facile, mais il y a une pression qui est telle que c'est hyper, hyper compliqué.
Mais Pierre ne s'arrête pas là, il a un autre reproche à faire aux réseaux sociaux.
En gros, le réseau social pour un jeune aujourd'hui, c'est quasiment sa seule et unique source d'information.
Un exemple avec Laurent de ce manque d'information.
Les enfants qui ont aujourd'hui entre 15 et 20 ans, pour la plupart et pour certains, ne savent même pas qui était Voltaire, ne savent même pas qui était
ça,
De Gaulle.
Ça, je confirme, Voltaire. Alors, De Gaulle, peut-être, mais Voltaire, ça, j'en suis sûr.
Bon, aujourd'hui, par contre, ça n'allait pas fort, Pascal.
Il y a des jours, franchement, où je n'ai pas le moral.
Dites-nous en plus, ami Pascal, allongez-vous dans le divan.
Je vais vous dire, vous qui venez de mettre sur terre un petit enfant et peut-être qui pensez à en mettre un deuxième, je me demande aujourd'hui, si j'avais 25-30 ans, si je mettrais sur la terre des enfants avec le monde qui est le nôtre.
Ah oui, bien sûr.
Alors, c'est déjà, très gai ce que je dis aujourd'hui. Très, très là, je suis au summum vraiment de la déprime.
Attitude, ouais.
Oh oui, on sent une ambiance extraordinaire. Allez, Greg Caranoni, mettez-nous la playlist de la bonne humeur.
Et on fait tourner les serviettes.
Allez, ça y est, on repart. Quel est le conseil du jour, Cyril?
Écoutez les podcasts de RTL, par exemple, sont super intéressants et il y a plein de connaissances que l'on peut acquérir.
Un conseil bien noté. Allez, posons une vraie question dans l'émission avec les Looney Tunes.
Pépé le putois doit-il disparaître des écrans? Incroyable question.
Pépé le putois n'apparaîtra pas dans le nouveau film dessin animé Space Jam. Il est jugé obsédé, dragueur lourd. Il embrasse, oui, Pénélope, une chatte noire, alors qu'elle tente de s'échapper. Et même un chroniqueur du New York Times estime qu'il contribue à normaliser la culture du viol. Alors que dit Pépé exactement? Rappelons les faits.
Dans les bras, ma chérie, il ne faut pas lutter contre sa destinée. Embrassez-moi, puisque l'amour nous réunit. Rassurez-vous, elle craquera. Juste une question de temps.
Et résultat, Laurence et Alain ont échangé leur point de vue.
C'est quelque chose de basique, mais qui vient de l'éducation, madame. Ça vient de l'éducation, ça ne vient pas. Ça ne vient pas spécialement de dessins animés ou de choses comme ça. Ça nous a fait rire, étant enfant.
Alors, voilà. Non, ça n'est pas anodin.
Laurence.
Et vraiment, autant la Belle au bois dormant, je veux bien l'entendre, autant là, eh bien, c'est justement tous les harcèlements de rue.
Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec le programme de nos réalisateurs sur RTL quand le couvre-feu sera terminé.
Il prend le bus de 18h17 et fout tout droit au club à Gombo pour aller danser le jazz.
Il retrouve le sourire là, hein, Laurent Pascal.
Ah bah je retrouve le sourire.
C'était
quand notre ami Flavie Flamand. Oh Eric Jean-Jean. Ah c'est là, un couple à la mode. C'est le nouveau couple, ils sont beaux hein, tous les deux.
Avec
Eric Jean-Jean et Flavie Flamand viennent d'entrer dans le studio.
Mesdames, messieurs, bonsoir.
Et nous allons mettre une page de publicité. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RT.